Alors, ceux qui ont fait les lectures cette semaine, on est dans les sens essentiels, la Bible en 100 textes essentiels. Et c'était quelle histoire qu'on a lue cette semaine? Joseph, hein? Et Joseph, c'est vraiment la transition entre qui? Oui, mais avant ça, le père de Jacob. Le père d'Isaac. Abraham. Abraham. Et le suivant, ça va être Moïse. Alors, l'histoire de Joseph, c'est comme un pont entre les deux. Et la Genèse consacre 14 chapitres, imaginez. 14 chapitres sur 50 pour l'histoire de Joseph. Donc, assez important, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que vous avez retenu de ce que vous avez lu? Moi, ce que j'ai retenu, c'est un modèle de fidélité. Modèle de fidélité. Joseph, modèle de fidélité. OK? On va voir ça ensemble. Et comment Dieu est fidèle aussi? Dieu est tellement fidèle. Comment il va changer le mal en bien? L'histoire de Joseph, c'est comment Dieu est capable de changer mon histoire qui est mauvaise en une bonne histoire qui est bénie. Amen. Et ça, c'est une promesse que déjà au départ, à la fin, dernier chapitre, on voit un peu le résumé de l'histoire de Joseph. Vous aviez formé le projet de me faire du mal. Dieu l'a transformé en bien. Pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie d'un peuple nombreux, et je pense que ça se répète, la même promesse se répète dans Romains, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Combien connaissent ce verset-là par cœur? Et combien le vivent? Est-ce qu'on est capable de dire dans les pires moments? Il y en a quelques-uns qui ont levé la main. C'est bon. Dans les pires moments, est-ce qu'on est capable de dire même ça, ça concourt à mon bien, hein, au bien de ceux qui aiment Dieu? Des fois, c'est difficile à répondre. Alors, on va voir comment quelqu'un qui a eu toutes les malchances du monde, on peut dire, hein? Il va devenir un instrument puissant dans la main de Dieu pour accomplir le plan de Dieu. Comment Dieu est fidèle, puis comment c'est payant d'être fidèle à ce Dieu-là. Ça, c'est l'histoire de Joseph. Et d'où il sort, ce Joseph-là? Si on parle de son époque, si on parle du début de l'humanité, ben il vient de la chute, il vient du déluge. Il a traversé la tour de Babel et la destruction de Sodome et Gomorre. Ça, c'est l'environnement, le monde de l'époque, c'est de là qu'il vient. Un monde qui était perdu sans Dieu et sa famille. J'ai fait une petite recherche sur la famille de Jacob. Les fils de Jacob, il y en a eu 6 de Léa. C'était qui Léa? La fille de Laban, puis ouais, la pas aimée, hein? On va le dire de même. Trompé par Laban, Jacob a été trompé par Laban. Il a fait passer pour Rachel qui aimait, mais l'avantage de Léa, c'est quoi? A eu plusieurs enfants, tandis que l'autre a été stérile pendant longtemps. Hein? La favorite a été stérile, elle a eu Joseph, et elle est morte à la naissance de Benjamin. Alors, Joseph est orphelin. Ça, c'est un petit peu sa famille, et ça se continue parce que il y avait toute une compétition entre Léa et Rachel, et Léa a pris sa servante, et puis à l'envoyer vers Jacob, avec lequel il y a eu 2 fils. Rachel, de son côté, a fait la même chose. Elle a eu 2 fils aussi. deux concubines. Alors ça, c'est... Et je pourrais rajouter aussi que Ruben, qu'est-ce qu'il a fait? Souvenez-vous de Ruben, le fameux Ruben? Que? Ouais, mais les mauvais coups. Ruben? Avec Bila? Il est allé coucher avec la concubine de son père. Alors ça, c'est là une belle famille, hein? Non, ils n'aimaient pas dans ce temps-là. Mais ils ont eu des filles. Parce que, oui, parce que, justement, il y a, je me souviens pas c'est lequel, comment il s'appelait? La fille qui s'est fait violer, là, par la tribu. Dina. Dina s'est fait violer par une autre tribu autour. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec la tribu? Massacré. Alors, ça donne un petit peu le contexte, notre arrière-plan familial. Hein? Ça, c'est les ancêtres, les pères du peuple hébreu. Et on comprend qu'il y avait un petit peu de rivalité entre les enfants aussi. Il y avait de la rivalité dans les parents, une vraie famille dysfonctionnelle. Polygame en premier. Où était le principe du mariage que Dieu avait donné à Adam et Ève? Tu quitteras ton père et ta mère, tu t'attacheras à ta femme, les deux deviendront une seule chair. Là, il est rendu avec pas mal de chair. Comment ça se fait que... Ouais. Charnel au bout. Mais ça, c'est l'époque. C'est de là qu'on vient. C'est de là que Dieu a tiré la nouvelle humanité. Et la naissance du peuple de Dieu, ce sont nos ancêtres. Est-ce qu'on se reconnaît là-dedans? J'aimerais ça qu'on écoute un vieux cantique. Je sais que les jeunes, peut-être ça fera pas votre affaire, mais on peut-tu écouter ça? C'est un vieux cantique qui parle de d'où est-ce qu'on vient et comment. Comment Dieu est venu nous chercher. C'est un cantique qu'on chantait dans les croisades de Billy Graham. Peut-être qu'on le chante encore. Il vient de les choisir. Et il y a comment aussi 66 personnes, parce que dans Exode 1, on nous dit qu'ils étaient 66 personnes. Comment 66 personnes, s'ils avaient été laissés à eux-mêmes, ils seraient disparus. Ils se seraient entretués. Ça a déjà presque arrivé avec Joseph. Les frères ont presque tué Joseph. Comment ils seraient morts dans la famine, probablement. La famine qui s'en venait. Et comment il y aurait eu des attaques terroristes, là. Et puis, ce serait entretué avec les tribus autour. Il y avait peu de chances de survie de ce clan-là. Mais Dieu était avec ce peuple-là. Dieu les a choisis et Dieu les a sauvés de cette perdition-là. Et c'est notre histoire. Hein? Nous étions tous perdus sans Dieu. Et Dieu, à un moment donné, il a mis sa main sur nous. Puis il nous a sortis du bourbier, puis il nous a sauvés dans sa grâce. Amen. Comment cette petite famille-là, dysfonctionnelle, va donner naissance à un peuple nombreux que Dieu va bénir et qui va bénir toute l'humanité. Hein? Enlevons les valeurs judéo-chrétiennes dans l'histoire de l'humanité et je vous dis qu'on ne fait pas long feu. Et si c'est où est-ce qu'on s'en va, ce sont les nouvelles valeurs païennes, les anciennes valeurs païennes qui refont surface. On n'ira pas loin non plus, mais c'est un terrain fertile pour l'Évangile, pour la bonne nouvelle. Et là, il y a un Joseph qui a émergé de ce 17 ans, et c'était le rapporteur officiel. Hein? C'est lui qui avait comme mission de surveiller ses frères, c'est d'écrire les mauvais propos, mais on pourrait traduire aussi mauvaise réputation. Alors, leur père est inquiet probablement de ce qu'il mijotait, et Joseph était le rapporteur officiel. Ensuite de ça, pour animer un petit peu l'histoire de famille, Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Il a fait une tunique multicolore et le résultat, ça alimente la jalousie, ça alimente la haine. Il pouvait plus lui parler avec amitié. Ensuite, la cerise sur le gâteau, Joseph fait un rêve, il en a fait deux, mais il fait un rêve et c'est quoi ce rêve-là? Il règne sur ses frères et ils vont se prosterner devant lui. Ça, c'est... Est-ce que vraiment... Pas mal naïf, hein? Mais je pense qu'il était pas mal intentionné. Je pense. Non, pas mal intentionné. Ben, écoute, il venait d'avoir une révélation de Dieu. Il allait être roi, là. Il allait être un seigneur. Puis, tout excité de ça. Il était fier de ça. Surtout qu'il était élevé avec les fils des concubines, hein, si vous lisez l'histoire, là. C'était un petit peu rejet. Alors, ouais. Mais le but, c'était de les sauver. De sauver la famille, sauver l'honneur de la famille, sauver la réputation de la famille. Il était allé tuer toute une tribu, là. Alors, il est inquiet de la survie. Mais son père est inquiet. Il a nommé Joseph pour espionner ses frères parce que c'est sûr que la médisance, la calomnie, c'est pas bien. Mais de dire la vérité pour qu'une personne soit arrachée de sa misère, ça c'est bien. Si on peut faire la différence, je peux faire la différence entre les deux. Ouais. Ouais. On le voit un petit peu plus tard dans l'histoire aussi quand il, en tout cas. On a suffisamment pour dire que c'était une famille un peu tordue. Et que Joseph sortait de là. Et lui était peut-être trop franc, innocent peut-être un peu dans le bon sens du terme, hein. Débonnaire dans la... Hein? Il a annoncé ça, c'est fait comme une grande nouvelle, mais il n'a pas eu la réaction peut-être qui... Et le résultat, il laillait sa mort, ils veulent tout d'abord le tuer, il est sauvé de justesse, puis finalement, ils le vendent comme esclave, par ses propres frères. Ouais, peut-être. Ouais. Mais qu'est-ce qui arrive là? Il me semble que t'es Joseph, puis t'arrives ça là. Tu viens de faire un rêve, c'était quoi le rêve? Moi, être au-dessus de mes frères, et il arrive exactement le contraire. Fait que la parole de Dieu là, hein? La parole de Dieu puis la réalité des fois. On dirait que ça va pas ensemble. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On a un choix à faire. Si on se fie aux apparences, si on se fie à nos performances, Joseph il a tellement manqué de sagesse que ça a fait échouer le plan de Dieu. Ses frères étaient tellement méchants que ça a fait échouer le plan de Dieu, le rêve de Dieu pour sa vie. C'est ça?
Non,
ça n'arrête pas là. Alors, Seigneur, c'est pas ça, la vie rêvée. Je suis devenu chrétien. Moi, je pensais que chrétien, on devenait riche et important, et plus de problèmes de famille, plus de problèmes de couple, plus de problèmes d'enfants, etc., etc. Est-ce que c'est le cas? Non? Le choix qu'on a à faire? Hey, le Seigneur, je viens au Seigneur tel que je suis. sans rien à moi, sinon son sang versé pour moi. Et Seigneur, malgré toutes les apparences, je continue à te faire confiance. Amen. Je sais pas où est-ce que tu es, mon frère, ma sœur. Qu'est-ce que tu vis présentement? Mais t'as un choix à faire. Ou bien tu sombres dans le désespoir, ou bien tu dis non. Tout ce qui m'arrive, il n'y a pas un cheveu de ma tête qui tombe sans sa permission. Tout concourt à mon bien. Le Seigneur est en train de faire quelque chose avec cette peine-là, avec cette douleur-là, avec tout ce que j'ai vécu jusqu'ici. Alors, heureusement, l'histoire ne s'arrête pas. Qu'est-ce qui arrive? L'Éternel est avec Joseph. Où? Hein? Esclave. Hein? Et l'esclavage, là, autrefois, c'était pas drôle. C'était même pire que les emplois qu'on a aujourd'hui. Mais l'Éternel est avec lui, qu'est-ce qui se passe? Ouais, il devient le boss. Est-ce que c'est pas ça que le Seigneur avait dit? Hein, je vais être le maître. Hey, Seigneur, c'est encourageant. Et qu'est-ce qui se passe? Bang! La femme du boss, du grand boss, Potiphar, qui veut coucher avec Joseph. Puis Joseph, parce qu'il est fidèle, parce qu'il dit non, je sombrerai pas dans cette immoralité-là qu'elle me propose. Alors, c'est assez niaiseux qui dit non. Hein? Ben, c'est la patronne, là. Il aurait juste obéir à la patronne. Il y aurait une bonne excuse. Hein? Profite de l'occasion, là, profite du plaisir que tu peux avoir. Ouais. Un bonus. Mais on vit dans ce monde-là. Hein? C'est pas les offres qui manquent. Si on veut avoir du plaisir, du mauvais plaisir, je pourrais dire, ou se livrer à toutes sortes de plaisirs, c'est pas les offres qui manquent. Mais il refuse les avances. Pourquoi? Parce qu'il est fidèle. Il est fidèle à Dieu et même fidèle à son boss. Hein? Et qu'est-ce qu'on récolte quand on est fidèle? Là, c'est pire qu'esclave, là. C'est pire qu'être un employé chez... Hein? Là, il est privé de tout, il n'y a plus de famille, il n'y a plus rien à lui. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que Joseph a dans cette prison-là? Il y a Dieu, mais plus que ça. Ben, pas plus, mais... Parce qu'il y a Dieu, il y a ça. La conscience en paix. Il y a la conscience en paix. Ce qu'il n'aurait pas eu s'il avait sombré dans la débauche. Là, il y a OK. Des fois, ça peut coûter quelque chose d'être fidèle à Dieu. Mais la conscience en paix, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Mon frère, ma sœur, si t'as pas la conscience en paix aujourd'hui, si tu fais des choses que tu sais qui sont pas correctes, arrête. Arrête tout de suite. C'est sûr que tu t'en vas dans la malédiction. Et le Seigneur, il dit, je suis venu pour toi. Hein? Je suis venu te sauver, t'arracher à cette misère-là. Fais-moi confiance un petit peu. Hein? Sois fidèle, sois loyal. Règle ton problème de conscience. Prends tous les moyens pour régler ton problème de conscience. Alors, le principe, c'est qu'on est mieux en prison avec Dieu que... Ouais. Que autre que la tienne. Ou le fun. Hein? Ouais. Et l'histoire, est-ce qu'elle s'arrête là? Est-ce que la méchanceté des humains va faire que le plan de Dieu va être handicapé?
Non.
Hein? L'Éternel, encore une fois, fut avec Joseph. Est-ce qu'on comprend ça? Hein? Ça m'a pris un été pour comprendre ça. Même plus que ça. 46 ans, 47 ans. L'Éternel est avec moi. L'Éternel est avec toi, mon frère, ma sœur. Il est avec toi dans tout. Tu n'as pas la conscience en paix. Il est avec toi. Puis il va te sortir de là. Hein? As-tu confiance en Dieu? Fais-lui confiance. Il est en prison, ça a duré 2 ans. Mais l'Éternel est avec lui. Puis finalement, le temps de Dieu arrive. Pharaon qui dit, pourrions-nous trouver un homme comme celui-ci ayant en lui l'Esprit de Dieu? Dès lors que Dieu t'a fait connaître tout cela, il n'y a personne qui soit aussi intelligent, aussi sage que toi. C'est toi qui seras à la tête de ma maison. Tout mon peuple dépendra de tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Le pharaon dit à Joseph, vois, je te donne autorité sur tout le pays d'Égypte. Oh, là, ça... Son rêve se réalise. Il en manque une partie. Il va manquer l'autre partie du rêve. Hein? Mais arrêtons-nous une minute, puis qu'est-ce que Joseph a appris durant toutes ces années-là? La fidélité de Dieu. Hein? Dans les pires circonstances. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vis aujourd'hui, maintenant, là. Peut-être que tu es dans les pires circonstances de ta vie. C'est comme si Dieu n'est pas là. Tout ce qui arrive, c'est le contraire à ce qu'on pense et la bénédiction. Mais l'histoire de Joseph, ça nous dit, lâche pas. Lâche pas. Continue à être fidèle. Et tu vas dire, wow, ça valait la peine. Il va changer cette malédiction en bénédiction. Il va changer le mal en bien. Une chose. Une autre chose qu'il a pu apprendre. T'as lu mes notes?
Non.
Le timing du Seigneur. Le temps du Seigneur. On va voir ça dans la réconciliation tantôt, mais il y a un temps pour chaque chose. Le timing du Seigneur. Qui n'est pas notre timing à nous. Hein? On aimerait bien que si j'étais Dieu, là, il me semble que mes enfants viendraient au Seigneur plus vite. Hein? Qu'est-ce qu'on apprend? La méchanceté des hommes va faire échouer le plan de Dieu. Ça a l'air de ça. Hein? La méchanceté de la femme de Potiphar, ses frères. Non. Dieu est souverain et Dieu contrôle tout ce qui arrive de méchant dans notre province. Dieu contrôle tout ça. Et il s'en sert pour que la lumière brille du milieu des ténèbres. Les Québécois vont avoir besoin de connaître le vrai Jésus bientôt. Et la fidélité, la franchise, la patience, ça porte du fruit. OK? Ça porte du fruit. Attends, mon Joseph. Attends l'histoire de ta vie. Ça vaut la peine. Joseph a eu un rêve pour lui. Dieu avait un rêve pour Joseph. Est-ce que Dieu a un rêve pour toi? Ou t'existes, tu sais pas trop pourquoi, par hasard. T'es chrétien, tu sais pas trop pourquoi, par hasard. Non, moi je pense que Dieu, tout ce que tu as vécu, là, d'où tu viens. On a une carte en arrière hein, pour ceux qui viennent du monde entier. Là, vous inscrivez votre nom sur un petit, une petite étiquette. Là. Mettez ça sur la carte en arrière. D'où vous venez, ce que vous êtes, ce que vous avez vécu, ce que vous avez appris, les expériences que vous avez passées, tout ça, là, ce n'est pas inutile. C'est dans la main de Dieu, c'est que serait Joseph sans ces épreuves-là? Hein? Il n'aurait pas été capable d'accomplir la... Mais Dieu est en train de nous préparer. Oui, c'est dur. Oui, il y a des épreuves. Oui, ça prend du temps. Oui, c'est long. Mais ça vaut la peine parce que Dieu est en train de faire quelque chose avec toi. Il est en train de te préparer à faire quelque chose. Et peut-être que tu le fais maintenant sans t'en rendre compte. Alors, c'est pas le hasard. Quand Joseph va rencontrer ses frères, qu'est-ce qu'il va leur dire? « Car c'est pour vous garder en vie. Sinon, vous seriez morts de faim, ou vous seriez entretués, ou vous seriez fait tuer, que Dieu m'a envoyé devant vous. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous assurer un reste dans le pays, pour vous permettre de survivre par une grande délivrance. Maintenant donc, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père du Pharaon. » Facile à dire une fois qu'on voit... Hein? Le plan de Dieu. Mais ayons cette fidélité-là, ayons cette vraiment cette foi-là que tout ce qui nous arrive peut être transformé pour le bien de vous personnellement, de ceux qui vous entourent, mais aussi de des gens qui sont ici dans la province de Québec et partout dans le monde. Dieu s'est choisi un peuple dans l'Ancien Testament pour bénir toutes les nations. Et en Jésus-Christ, cette promesse-là s'est accomplie. Et maintenant, des gens de toutes les nations, on a juste à regarder la carte en arrière, qui sont bénis afin de bénir les gens autour de nous. Alors, la deuxième partie de l'histoire, si on peut dire, le but ultime de l'histoire, c'est quoi? Comment une famille qui est aussi dysfonctionnelle peut être réconciliée? Hein? Ça, c'est la fin de l'histoire. Huit chapitres pour nous raconter la réconciliation. Et on retrouve cette vérité-là dans le Nouveau Testament, hein? Si quelqu'un est en Christ, il est. Et de qui il parle, là? C'est qui, ça, ces nouvelles créatures? Hein? Ouais. Hein? C'est de toi qu'il parle. C'est de nous qu'il parle. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le service ou le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, sans tenir compte aux hommes de leur faute, il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Toute cette histoire-là de Joseph, là, ça se termine. Le but ultime, c'est la réconciliation avec ses frères. Parce que s'il n'y a pas cette réconciliation-là, c'est fini pour l'humanité. Ça, c'est le germe, hein? En germe, le message de l'Évangile. Dieu vient se réconcilier avec nous. Et Joseph est un modèle de réconciliation parce que il y avait des raisons légitimes de se plaindre, n'est-ce pas? Pourquoi 8 chapitres et demi? Vous trouvez ça long? Non? C'est un bon... Moi, j'ai trouvé ça long. Il me semble qu'un chapitre, ça aurait fait. Hein? Toute une mise en scène, tout un scénario compliqué semble, dans un chapitre, ils se retrouvent. Bon, ils se pardonnent, ils s'embrassent, puis c'est fini, on n'en parle plus. Comme ça, ça marche dans la vie. C'est quoi le but d'insister, étirer l'histoire, hein, pendant 8 chapitres? L'importance de... Et pas n'importe quelle réconciliation. Hein? La réconciliation, c'est quelque chose qui est profond et qui doit être sincère. Je répète, la réconciliation, c'est quelque chose qui est profond, qui est sincère. Joseph, d'après moi, ne voulait pas d'une petite réconciliation vite fait. Hein? On oublie ça et puis on s'aime. Ça marche pas comme ça dans la vraie vie. Et plus l'offense est grave, plus la guérison est profonde. Et il y a une question de temps là-dedans. On l'a dit tantôt, le timing du Seigneur. Joseph, il a été blessé profondément. Et on voit que leur première rencontre, c'est, ils se comportaient à leur égard comme un inconnu, il leur parla avec dureté. La réaction normale quand t'es offensé, peut-être devant un agresseur, là, c'est ça. Hein? Et il les accuse d'être des espions, ils soupçonnent le mal, si on peut dire. Et eux, ils se défendent en disant, nous sommes sincères. Ah oui, vous êtes des sincères, vous autres. Hein? On va voir ça, oui. Ouais. Alors, il a mis sa main. Hein? Et c'est sûr que Dieu est souverain, mais c'est sûr que Joseph a dit, non, moi, je suis le Seigneur. Je vais être fidèle à ce que le Seigneur me demande. Et il a répondu. Sinon, c'était fini. L'histoire s'arrêtait là. Ou... Hein? Alors, mais là, Joseph, il est puissant, là. Puis il voit sa gang de bandits, là, sa gang de frères assassins. Et il les a à sa merci, il peut se venger, il peut leur faire payer, il peut se moquer d'eux autres. Hein, ma gang, ma bande, je vous l'avais bien dit. Souvenez-vous le petit rêve que j'ai eu, là? Hein? Il aurait pu avoir cette rage-là au cœur, il aurait pu les humilier, il aurait pu les faire s'agenouiller devant lui. Il était le roi, le king, il avait tous les pouvoirs, il pouvait être les massacrer là. Et ça, c'est dangereux dans la réconciliation quand on a cette attitude-là. Là, je caricature pas mal, mais ça ressemble à beaucoup de... Ouais, on se venge soi-même. Au lieu de laisser la vengeance à celui qui est sur le trône, on monte sur le trône et on se fait justice soi-même, puis on a raison de le faire. Ce n'est que justice, ce n'est que œil pour œil, dent pour dent. Et mon gars, ma fille ou mon ennemi, là, je peux lui faire payer tout le mal qu'il m'a fait. Mais ça, ce n'est pas la réconciliation. Ça, c'est la justice. Ça, c'est la condamnation. Et c'est ça que il va arriver au jugement dernier, mais c'est Dieu qui va être le juge. Et le Seigneur dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont... Ça ralentit un petit peu l'élan. OK, si je veux que Dieu me pardonne comme je pardonne à celui qui m'a fait du tort, oh, je suis pas sorti du bois. Alors, est-ce que Joseph il les manipule? Est-ce qu'il est il jouit en secret? Hein? Pendant 8 chapitres, là, je le vois qui est en tout. Est-ce que c'est le Joseph qu'on connaît, ça? Il y a un malin plaisir à les voir souffrir, puis ah, ça fait du bien de voir souffrir qui nous a fait quelqu'un qui nous a fait souffrir. Là. Ça fait-tu du bien? Il y a un gars honnête ici. Oui, à la chair, hein, c'est normal, c'est la justice de voir la... Mais est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut? Non, qu'est-ce qu'on veut? on veut le pardon, on veut la réconciliation, si possible, mais pour qu'il y ait réconciliation, il faut qu'il y ait deux personnes. Hein, ça marche sur les deux bords. Et je pense que moi, Joseph, il aime ses frères. Et il n'y a rien qu'il désire plus de retrouver ses frères, l'amour de ses frères. Mais ça prend le timing du Seigneur. Et là, je vais dire quelque chose d'important. Réconciliation, ça se fait à deux. Hein? On ne peut pas se réconcilier tout seul avec une autre personne. Et c'est pas quelque chose de forcé, c'est pas quelque chose de, qu'on fait en claquant des doigts. C'est pas quelque chose de fake non plus. C'est quelque chose de profond. S'il n'y a pas de vraie culpabilité, si la personne ne reconnaît pas vraiment sa faute, si elle n'est pas avouée, s'il n'y a pas une repentance sincère, il n'y a pas de réconciliation possible. Le pardon, oui, parce que le pardon, ça peut se faire devant Dieu, sans même que l'autre personne soit là. Mais la réconciliation, il faut qu'il y ait une repentance sincère. Et parfois, mais je dirais souvent, ça prend du temps. Ce processus-là, là, ça prend du temps. Et ça se fait pas sans qu'il y ait une certaine pression, sans qu'il y ait une certaine tension. Pour que j'enlève ce vieux vêtement crotté-là, il faut que le Seigneur élève la température un peu. Si quelqu'un a son manteau de fourrure ici, là, puis là, on augmente le chauffage, là, à un moment donné, c'est plus vivable, là. Et ça arrive, ça, dans la réconciliation. C'est plus vivable, là. On a besoin. Puis le Seigneur va augmenter le chauffage. Il y a une pression qui est nécessaire. Et finalement, l'affliction, ça attendrit le cœur endurci. L'affliction attendrit le cœur endurci. Quand quelqu'un nous fait du mal, le cœur a tendance à s'endurcir. Mais un cœur qui est affligé, comme Joseph, comme ses frères, moi je pense que ça a duré si longtemps parce que les frères devaient reconnaître leur tort. Ils devaient être comme désespérés. On va voir qui... Dans le prochain, qui disent toute cette affliction-là, tout ce qu'ils vivent, ça les fait comme rentrer en eux-mêmes. Vous savez, l'enfant prodigue, là? Hein? Ce sont comme des enfants prodigues. Oui, nous avons été coupables envers notre frère. Nous avons vu la détresse de son âme quand il nous demandait grâce et nous ne l'avons pas écouté. C'est pour cela que cette détresse nous arrive. Moi, je pense à ça a duré 8 chapitres. Pour qu'il y ait cette prise de conscience. L'affliction, ça attendrit le cœur. Ils sont ouverts. Et c'est un aveu de culpabilité. Ils reconnaissent le mal qu'ils ont fait. Maintenant, son sang nous est réclamé. Et on voit l'amour de Joseph. Il s'éloigna d'eux pour pleurer. Alors, eux, le cœur leur manqua. Qu'est-ce que Dieu nous a fait? Ils sont vraiment... on voit une vraie repentance sincère du mal qu'ils ont fait. Alors, est-ce qu'il y a une réconciliation qui doit être faite dans ta famille? Ça prend le timing du Seigneur. Ça prend le timing du Seigneur. Mais ça va venir. Ça prend un cœur qui est attendri, un cœur qui désire cette réconciliation. Ça prend une repentance sincère, un aveu de culpabilité. On ne peut pas juste dire, oh, c'est pas grave. Ni d'un côté, ni de l'autre. La personne qui est offensée ne peut pas dire « Ah, oh, c'est pas grave. » La personne qui a été offensée ne peut pas dire « Ah, oh, c'est pas grave. Oh, » pas grave. Hein? C'est la vie. Non, c'est pas de même, ça marche. Faut vivre cette culpabilité-là. Faut vivre cette repentance-là. Faut vivre cette douleur-là, cette colère-là. Et à un moment donné, la donner au Seigneur et pardonner du fond du cœur. Le pardon, il est aussi profond que la colère et la douleur que je ressens face à l'offensé comme à l'offenseur. Et on termine. Je termine avec cette... Après tout ce temps-là, Jacob meurt. Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent, « Si Joseph allait se montrer notre adversaire et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. » Il avait une peur encore. Hein? La réconciliation, là, avant que le lien de confiance soit rétabli. Et il y a des cas d'adultère là, où les gens bien intentionnés, des frères et sœurs reviennent ensemble. Et c'est difficile ensuite de retrouver pleine confiance. Et la crainte des frères de Joseph encore. « Oh, je t'en prie, pardonne le crime de tes frères. » Ils font parler leur père Jacob. Hein? « Oh, je t'en prie, pardonne le crime de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Je t'en prie, pardonne maintenant le péché des serviteurs du Dieu de ton père. » Joseph pleura quand on lui parla ainsi. Ils n'ont pas compris que je leur ai pardonné entièrement. Hein? Soyez sans crainte, ayez pas peur. Suis-je à la place de Dieu, justement? Hein? Je suis pas le juge. Vous aviez formé le projet d'un faire du mal, Dieu l'a transformé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui et pour sauver la vie d'un peuple nombreux. Maintenant, soyez donc sans crainte. Je vais pourvoir à tous vos besoins et à ceux de vos enfants. Il les consola en parlant à leur cœur. On a besoin d'être pardonné. On a besoin d'être réconcilié. Et la réconciliation qu'on a entre nous, ça prouve la réconciliation qu'on a avec Dieu. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ça veut dire que, OK Seigneur, c'est toi qui es le juge. Moi, je descends du trône, je refuse de me venger, je refuse de faire du tort, de me faire justice. Je le remets à la personne dans tes mains. Et quand on fait ça, les chaînes tombent, on est libre. On est libre. Et puis ce fantôme qui nous suit en arrière, qui nous a fait du mal, qui a détruit notre vie, qui a gâché notre vie, on a cette confiance-là que c'est Dieu. Et Dieu qui est notre maître. Et si ces choses-là sont arrivées, c'est que ça me prépare pour un ministère, une œuvre que Dieu veut que je fasse. Ça peut être une petite chose, ça peut être des grandes choses, peu importe. Il n'y en a pas des petites pour Dieu. C'est quoi cette vision-là, ce rêve-là que Dieu a pour toi? Tout ce que tu es en train de vivre, c'est dans la main de Dieu. Puis c'est en train de te former pour bénir. Être béni et bénir. Amen. Juste prendre un temps pour... On a une minute ou deux pour vraiment prier. Louer Dieu si quelqu'un veut élever la voix. Deux, trois personnes pour terminer dans la prière. Oui Seigneur, on a entendu ton plan pour nous ce matin. Peut-être qu'il y a des personnes ici qui n'ont pas la conscience en paix. Mais qu'il a désir. Seigneur, c'est un désir que tu as mis dans leur cœur. Te prions, Seigneur, qu'ils aient le courage, qu'ils aient de faire ce choix ce matin, de mettre leur vie en ordre. Peut-être, Seigneur, il y a des personnes qui ont été blessées, gravement blessées. Que, Seigneur, tu entreprennes ce processus de guérison-là et de délivrance, qu'ils soient libérés de ses chaînes, et puis qu'ils puissent goûter à la liberté des enfants de Dieu, qui pardonnent comme ils ont été pardonnés. Seigneur, que ta bonne main soit sur nous, sur chacun d'entre nous, et que la bénédiction que tu as promise, Seigneur, se réalise dans nos vies, pour ta gloire. Amen.